France Inter.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Un 13-14 sur le terrain en direct de Fort Boyard. Nous avons choisi de nous installer sur l'un de nos monuments les plus célèbres pour vous parler de l'érosion, car la montée du niveau de la mer, dont le rythme s'accélère, menace de le détruire.
Il y a des fissures qui apparaissent et c'est surtout ton pied du fort à l'extérieur, ce qu'on appelle la risberme. Donc la protection des fondations qui, avec les vagues au nord, se dégrade de plus en plus rapidement.
Alors le conseil départemental de Charente-Maritime lance dans quelques jours de grands travaux, 44 millions d'euros, avec l'objectif dans 3 ans d'y accueillir du public.
Pour certains, il y a une petite frustration. Et la question moi, que j'entends depuis 20 ans, c'est « est-ce qu'on peut visiter le Fort Boyard ?» La réponse est souvent « non, désolé, c'est un plateau de télé ».
Chantier titanesque en pleine mer qu'il va falloir évidemment financer tout au poursuivant les tournages. Nous allons vous raconter tout cela avec nos reportages et nos invités ici au cœur du fort. Et avec vous Céline Asselot. Bonjour Céline.
Bonjour Jérôme.
En studio, toute l'actualité de ce jeudi a commencé par cette frappe iranienne ces dernières heures sur un hôpital israélien.
Oui, tir de missile qui a fait au moins 47 blessés, frappe délibérée selon le gouvernement israélien qui menace désormais directement l'ayatollah Khamenei, le guide suprême iranien. On ira dans le sud d'Israël rejoindre notre envoyé spécial, le Quai d'Orsay. De son côté, conseille aux ressortissants français qui souhaiteraient quitter l'Iran de partir via l'Arménie ou la Turquie. On va l'entendre. L'actualité, c'est aussi cet accord de paix en vue entre la RDC et le Rwanda. La chaleur qui s'abat sur la France et on verra qu'il est bien difficile de trouver des points d'eau potable dans les gares, dans les lieux publics, contrairement à ce que prévoit la loi. Et puis un nouveau visage aux 20h de France 2, c'est Léa Salamé qui a été choisie pour s'installer dans le fauteuil du JT la saison prochaine et qui va donc quitter la matinale de France Inter.
Et puis juste avant 14h, télé toujours, le Fort Boyard côté jeu avec sa communauté de fans et ses personnages légendaires comme Passepartout. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous sur le fort.
France Inter.
Ce site est tout simplement exceptionnel. Nous sommes au pied du Fort Boyard, entre l'île d'Oléron et l'île d'Aix, en pleine mer. Et c'est tout simplement la première fois qu'une émission est réalisée en direct. Ici, je me trouve au ras de l'eau, au pied de l'enceinte, en bas des marches qui permettent d'accéder aux portes du fort, celles que les candidats empruntent dans l'émission. À mes côtés, Delphine Gramaglia, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes architecte du patrimoine, c'est vous qui avez été chargé par le département de Charente-Maritime de concevoir ce programme de sauvegarde. Pourquoi entamer un tel chantier? On a trace de la dégradation du fort, on voit d'ici les effondrements partiels, les fissures.
Oui, effectivement, le fort est attaqué par la houle, les vagues. Et donc, sur toutes les maçonneries du fort, on voit des fractures verticales assez importantes qui menacent totalement la ruine et la pérennité de cet ouvrage, un monument historique.
On en a une en face de nous, là?
Voilà, donc sur environ 15 mètres de hauteur, on voit une fracture verticale. La pierre est tout simplement cassée en deux par la force des vagues et les pressions des tempêtes qui sont de plus en plus importantes aujourd'hui.
Si on ne fait rien, qu'est-ce qui va se passer?
Malheureusement, si rien n'est fait, d'ici 20, 30 ou 40 ans, le fort est menacé d'une ruine assurée.
Donc on perdrait le fort si on n'engageait pas ces travaux, d'où la décision qui a été prise par le conseil départemental. Vous êtes chargé de préparer ce chantier. Est-ce que vous prenez en compte, on a entendu ce matin dans l'actualité, les alertes des scientifiques et la montée des eaux qui s'est accélérée ces dernières années? Est-ce que vous prenez compte de ces données pour bâtir des ouvrages?
Oui, tout à fait. Notre groupement, donc l'entreprise TPO et BRL Ingénierie, qui est chargée de tout ce qui est travaux hydrauliques, avec eux, on travaille en fait sur la restitution des ouvrages historiques, mais avec la prise en compte des aléas climatiques et effectivement de la montée des eaux, ce qui nous a amené finalement à faire des adaptations des ouvrages historiques que l'on tenait à remettre en œuvre.
Vous avez amené aujourd'hui des petits morceaux de béton, petits cylindres, 10 cm. Les ouvrages sont en béton, mais l'idée, c'est qu'ils se confondent avec la couleur des pierres du fort.
Oui, parce que les ouvrages historiques étaient faits en granit, comme le soubassement du fort, comme la base du fort. Et donc l'idée, c'est de retrouver un petit peu cet aspect gris pour retrouver l'assise générale que formaient le havre d'abordage à l'arrière, le fort et l'éperon au nord.
Nous avons monté les marches, on se trouve devant la porte d'entrée de ce fort où nous attend Pascal Baron. Bonjour Pascal.
Bonjour.
Vous êtes le président de la société Le Scaphandre, vous êtes en charge de la logistique et team autour du fort. C'est vous qui avez entre les mains les clés du fort. Il y a une passerelle au-dessus de nous, elle est en place pour relier la plateforme qui permet aux personnes qui viennent de l'extérieur d'aborder et ensuite de rentrer dans le fort. Cette plateforme, vous l'enlevez régulièrement?
Oui, on l'enlève pendant l'hiver puisque les vagues arrivent à monter
sur le rez-de-chaussée et au niveau de la porte.
Là, on est à 10 mètres au-dessus de l'eau.
On est à peu près à 10 mètres au-dessus de l'eau et on est à la troisième passerelle puisque deux passerelles ont été emportées par la houle qui peut monter très haut puisque le fort mesure 30 mètres et on a des vagues qui montent à peu près 10 mètres au-dessus quand elles viennent claquer et tomber à l'intérieur du fort. Donc, indispensable de mettre cette passerelle en sécurité pendant l'hiver.
Nous sommes devant l'entrée. Vous m'épargnez l'épreuve d'entrée, Pascal. Je veux bien que vous ouvriez le fort avec les clés.
Je vais essayer d'ouvrir cette porte de 10 cm d'épaisseur en bois. Très lourde.
Il y a combien de tours à faire ?
Trois tours.
Trois tours à faire.
Avant de pouvoir accéder à la forteresse.
Voilà. Merci de m'avoir épargné cette épreuve, de grimper la façade pour rentrer. Nous sommes devant le fort. On va pénétrer dans un instant et on va se retrouver avec nos invités qui nous attendent à l'intérieur, Céline, pour parler de ce chantier considérable, de cette lutte contre l'érosion que l'on mène ici en Charente-Maritime, mais que l'on mène sur l'ensemble du littoral de notre pays. Avant cela, nous détaillons avec vous toute l'actualité de ce jeudi, actualité internationale dominée par la guerre entre Israël et l'Iran. Israël qui menace désormais directement l'ayatollah Khamenei.
Oui, le guide suprême iranien ne peut être autorisé à continuer d'exister. Déclaration du ministre israélien de la Défense après de nouvelles frappes iraniennes qui ont touché dans la matinée la banlieue de Tel Aviv et un hôpital dans le sud d'Israël à Beersheva. 47 personnes ont été blessées. Israël parle d'un impact direct, d'une frappe délibérée. L'Iran assure de son côté que la cible n'était pas l'hôpital mais le site militaire qui se trouvait à proximité. L'attaque en tout cas provoque beaucoup d'émotions sur place. Vous vous trouvez, Farida Noir, bonjour.
Bonjour.
Les patients sont en train d'être déplacés pour être mis en sécurité.
Oui, ils sont en train d'être pris en charge par l'armée, par le personnel hospitalier, par la Croix-Rouge locale. Il y a des personnes en chaise roulante, d'autres sur des brancards qui sont évacuées dans d'autres hôpitaux, alors soit en ambulance, soit dans des bus pour les plus valides. Il y a, pas loin de moi, des débris de verre au sol. Les vitres d'un bâtiment de ce gigantesque hôpital ont été soufflées. Sur le côté, une sorte de tour est noircie. L'hôpital indique que plusieurs blessés légers sont actuellement soignés aux urgences. Cette frappe, elle a eu lieu vers 7h ce matin, Iris travaille à la maternité et elle nous raconte encore sidérée ce qui s'est passé. Je suis arrivée ce matin à 6h53, nous dit Iris. Je devais commencer mon service et puis on a reçu l'alerte sur le téléphone. Là, on s'est vite dirigé vers l'abri le plus proche. Je devais commencer mon service et puis on a entendu un boom terrible. Le plafond au-dessus de nous s'est effondré et une femme a été blessée. C'était vraiment horrible. Ça fait très peur. On n'aurait jamais pensé que ça puisse arriver ici. Faites attention, c'est encore très dangereux, nous dit-elle. Il y a beaucoup de vitres qui ont explosé et du verre peut encore tomber. Ça fait peur, ça fait vraiment très peur. Même très secouée, Iris a décidé de rester jusqu'au bout de son service pour aider, nous dit-elle.
Merci Farida Noir, en direct de Beersheva dans le sud d'Israël avec Eric Audra à vos côtés pour les moyens techniques. La confrontation ne faiblit pas, on vient de l'entendre, les mots se durcissent encore. Les États-Unis laissent toujours planer le doute sur une entrée en guerre. La Chine et la Russie de leur côté appellent à une désescalade. Les deux dirigeants, Xi Jinping et Vladimir Poutine, se sont entretenus ce matin au téléphone. Le cessez-le-feu est une priorité, estime le président chinois. Quant à l'Europe, elle tente la voie diplomatique. Les ministres des Affaires étrangères de l'Allemagne, du Royaume-Uni et de la France envisagent de rencontrer leur homologue iranien demain à Genève, indiquent des sources diplomatiques. La France qui suit aussi avec beaucoup d'attention la situation de ses ressortissants. Ils sont 900 Français ou binationaux à se trouver en Iran, 150 000 à vivre en Israël. Et s'ils souhaitent partir, eh bien leur départ sera facilité, assure Jean-Noël Barrot, le chef de la diplomatie française.
En Iran, des équipes sont déployées ce jour aux deux frontières, la frontière turque et la frontière arménienne. Les personnes s'étant signalées et ne pouvant pas gagner la frontière arménienne ou la frontière turque par leurs propres moyens seront acheminées par convoi d'ici la fin de semaine. Ils seront ensuite invités à rejoindre les aéroports turcs ou arméniens pour regagner le territoire français. En Israël, les Français qui souhaitent rentrer en France peuvent continuer à le faire en gagnant par la route la Jordanie et l'Égypte. Des bus seront mis en place dès demain matin pour acheminer nos ressortissants du point de frontière vers les aéroports d'Amman et de Sharm el-Sheikh. Un vol sera affrété au départ d'Amman d'ici la fin de semaine pour faciliter le retour des Français de passage, les personnes vulnérables ou dans une situation d'urgence qui se sont signalées à nous. Les personnes les plus en difficulté seront accompagnées pour parvenir jusqu'à la frontière jordanienne.
Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, plusieurs pays ont commencé à lancer des opérations d'évacuation de leurs ressortissants d'Israël ou d'Iran. C'est le cas par exemple de l'Allemagne, de la Pologne ou encore de la Grèce. Et puis pendant ce temps, la guerre à Gaza se poursuit. La défense civile du territoire palestinien assure que 18 personnes ont été tuées hier par les forces israéliennes, dont 15 qui s'étaient rassemblées près d'un site de distribution d'aide dans le centre de la bande de Gaza. Elle est l'une des voix de la matinale de France Inter et elle devient le nouveau visage du JT de France 2. Léa Salamé va s'installer à la saison prochaine dans le fauteuil du 20h de la chaîne publique. Bonjour Alexandra Hakoun.
Bonjour.
La journaliste qui co-anime depuis 2017 le 7-10 de France Inter a en effet été choisie pour remplacer Anne-Sophie Lapix.
Eh bien oui Céline, après 11 ans de matinale, de femmes puissantes et plus récemment d'interview de 9h20, Léa Salamé a décidé de s'attaquer à un nouveau défi, le 20 de France 2. Elle y remplacera, vous l'avez dit, Anne-Sophie Lapix, évincée il y a 3 semaines par la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte. À Léa Salamé désormais de tenter de redresser les audiences d'un 20h qui réunit en moyenne près de 3 800 000 téléspectateurs tous les soirs, selon Médiamétrie. 19% de part d'audience, quand en face, celui de Gilles Boulot sur TF1, caracole à plus de 5 millions et 26% de part d'audience. Un écart qui n'avait fait que se creuser ces dernières années. Depuis plusieurs semaines, c'était pourtant le nom de Caroline Roux qui revenait le plus, mais la journaliste a fait savoir hier qu'elle préfère rester à la présentation de C'est à vous sur France 5. Et ce matin, ce coup de théâtre, Léa Salamé quitte la matinale de France Inter pour le 20h de France 2. Une sacrée page se tourne pour notre antenne. Très émue ce matin dans les couloirs de France Inter, la journaliste de 45 ans a fait savoir qu'elle resterait aussi à la rentrée à la tête de Quelle Époque, son émission du samedi soir sur France 2.
Merci Alexandra Hakoun, spécialiste média à la rédaction de France Inter. Léa Salamé quitte donc la matinale, mais son histoire avec France Inter n'est pas terminée, précise Adèle Vendrette dans un communiqué. La directrice de la station évoque des discussions autour de nouveaux projets pour l'avenir. Des températures qui vont grimper aujourd'hui puis demain avant d'atteindre un pic samedi. Voilà à quoi va ressembler la vague de chaleur qui s'abat sur la France. On attend jusqu'à 38 degrés localement. Sébastien Léas nous en dira plus dans les prochaines minutes. Et se rafraîchir n'est pas toujours facile, notamment dans les villes. Depuis 3 ans, la loi oblige les établissements recevant du public à installer des points d'eau potable et une signalétique très claire pour nous aider à les trouver. Mais seul un établissement sur 10 respecte cette double obligation, selon une étude de l'UFC Que Choisir et de l'organisation No Plastic in My Sea. Illustration gare Montparnasse à Paris, où Nina Sobetskia tentait de remplir sa gourde.
Dans le hall, facile de trouver où retirer de l'argent, où se trouve le centre de santé ou encore les magasins. En revanche, aucune indication pour une éventuelle fontaine à eau.
Est-ce que vous savez où je peux trouver un point d'eau pour remplir ma gourde ici ?
J'ai pas du tout fait attention.
Et je sais pas du tout.
Aux toilettes, j'ai envie de dire.
Aux toilettes ?
J'en sais rien du tout.
Par là-bas, oui.
Ok, donc je passe les portiques à droite.
Il est vrai que peu de voyageurs ont une gourde. Jasmine, étudiante berlinoise en master à Lyon, sort la sienne, mais c'est par hasard qu'elle est tombée sur ce point d'eau peu visible et pas signalé.
C'est super parce que c'est pas facile de trouver de l'eau. Surtout quand il fait chaud, c'est super important de boire assez.
Un enjeu de santé publique, mais aussi environnemental, explique Muriel Papin, déléguée générale de l'association No Plastic in My Sea.
L'objectif de la loi, c'est de permettre de s'hydrater facilement et d'éviter le recours à des bouteilles plastiques. Et ça accompagne un objectif global de réduction de tous les plastiques à usage unique et surtout de réduction de moitié des bouteilles en 2030 par rapport à l'année 2018. Donc c'est une des mesures qui permet d'atteindre cet objectif.
L'élan des JO semble aujourd'hui avoir disparu et avec lui une partie des fontaines. Elles avaient pourtant permis de diviser par 3 le nombre de bouteilles plastiques utilisées par rapport aux Jeux de Londres 20 ans plus tôt.
Reportage signé Nina Sobetski, la France dans la chaleur et le Mexique en alerte ouragan. Le pays menacé par l'ouragan Eric de catégorie 4 sur 5 avec des vents potentiellement destructeurs, disent les autorités, qui pourraient provoquer des inondations soudaines dans le sud du pays. Les habitants appelés à rester chez eux et tout cela illustre bien ce que les scientifiques disent maintenant depuis des années, les événements climatiques extrêmes risquent de devenir plus fréquents à mesure que la Terre se réchauffe, le GIEC le dit régulièrement et voilà qu'un nouveau rapport va dans le même sens. Une 60aine de chercheurs de 17 pays viennent de rendre leurs conclusions. Le réchauffement d'origine humaine a augmenté à un rythme sans précédent, disent-ils. Il semble désormais impossible de maintenir la hausse des températures sous le seuil des 1,5 degré par rapport à l'époque pré-industrielle. Et d'ailleurs ce seuil, ce fameux seuil a déjà été franchi l'année dernière. Bonjour Sandy Dauphin.
Bonjour.
1,52 degrés degrés en 2024, plus 1,52 degré en 2024, c'est un record.
Oui, 2024 a battu le record de 2023 de l'année la plus chaude. On est à 1,52 degré de plus par rapport à l'époque pré-industrielle, la période de référence du 19e siècle. Une part importante de cette chaleur est due aux activités humaines. Elles sont responsables de 1,36 degré de réchauffement en 2024, d'après ce rapport. En cause, toujours les émissions de gaz à effet de serre record de l'année dernière, liées surtout à la combustion des énergies fossiles et à la déforestation. Et en 2024, un facteur naturel s'est ajouté pour faire grimper le thermomètre, un épisode El Niño, phénomène océanographique, qui a soufflé le chaud sur la planète pendant plusieurs mois.
Alors ce rapport, Sandy, il montre aussi que la pollution atmosphérique a diminué. Et là où c'est un peu contre-intuitif, c'est que ça risque d'aggraver le réchauffement climatique.
Eh oui, c'est paradoxal. Les voitures, les usines, les bateaux rejettent des particules polluantes dans l'air qui ont un effet refroidissant car elles réfléchissent la lumière du soleil vers l'espace. Aurélien Ribes, chercheur en sciences du climat à Météo France, l'un des auteurs de ce rapport.
Depuis plusieurs décennies, en fait, l'émission d'un certain nombre de particules de pollution a contribué à obscurcir l'atmosphère et en fait à refroidir le climat. Désormais, on fait des efforts pour limiter ces émissions de particules, à juste titre, parce qu'il y a plein de co-bénéfices, notamment pour la qualité de l'air, la santé. Mais la diminution de ces quantités de particules de pollution tend à supprimer cet effet masquant et donc tend à accroître légèrement le rythme du réchauffement qu'on observe aujourd'hui.
Voilà encore un rapport alarmant sur le climat. Ses auteurs le martèlent. Pour limiter le réchauffement, il faut réduire rapidement les émissions mondiales de CO2.
Et ce rapport international alerte aussi sur la montée des eaux qui s'accélère et on en verra les effets très concrets avec Jérôme Cadet dans les prochaines minutes en direct de Fort Boyard. Merci Sandy Dauphin. C'est un conflit meurtrier qui est peut-être sur le point de s'achever. La République démocratique du Congo et le Rwanda se préparent à signer un accord de paix pour mettre fin à la guerre qui ensanglante l'Est de la RDC depuis des mois. Les deux pays ont trouvé un accord. Le texte définitif devrait être signé la semaine prochaine, le 27 juin, lors d'une réunion à Washington. Et c'est peut-être l'espoir, Nathanaël Charbonnier, de mettre fin à un conflit qui dure depuis des décennies.
Ce conflit est en effet la suite de ce qui s'est passé au Rwanda il y a plus de 30 ans avec le génocide des Tutsis par les Hutus. On parle de près d'un million de morts en l'espace de 3 mois seulement. Si le calme a pu revenir à l'époque au Rwanda, c'est parce qu'une partie des protagonistes est allée se réfugier au Congo voisin, entraînant la déstabilisation de toute la région du lac Kivu qui se trouve de l'autre côté de la frontière. L'accord prévoit donc toute une série de mesures qui visent à rassurer les Rwandais et leurs alliés du M23 basés en RDC. Il est question de désengagement, de désarmement des différents groupes armés qui se battaient. Il est aussi question d'économie, car la région est connue pour être riche en ressources naturelles. Autant dire que l'accord qui sera signé la semaine prochaine est important, même s'il faut rester prudent et rappeler que depuis 2021, les acteurs locaux ont déjà annoncé une demi-douzaine de cessez-le-feu et de trêves et que tous ont volé en éclats.
Les précisions de Nathanaël Charbonnier de la rédaction internationale. Il faut vérifier l'âge des utilisateurs des réseaux sociaux et ce, dans toute l'Europe. La ministre chargée du numérique plaide pour une harmonisation de la législation au niveau européen pour mieux protéger les mineurs. Des effets néfastes des plateformes, Clara Chapaz était auditionnée ce matin par la commission d'enquête chargée d'évaluer les effets psychologiques de TikTok. La ministre s'est donné 3 mois pour faire passer l'âge minimum d'utilisation des réseaux sociaux à 15 ans. En France. Un grand plan de réorganisation annoncé au sein de Pernod Ricard, le géant français des alcools touché par un recul de ses ventes. Le groupe compte 18 000 salariés dans le monde, dont 4 000 en France, à Paris ou encore à Cognac. Dans 9 mois, en mars 2026, les Français iront voter pour choisir leur nouveau maire. Mais pour combien de temps les démissions de maire se multiplient depuis quelques années? C'est ce que montre une étude publiée aujourd'hui. 3 000 changements de maire depuis la dernière élection en 2020, dont 2200 départs volontaires. C'est un niveau historique qui s'explique par les problèmes de santé, le cumul des mandats, la fatigue, mais aussi et surtout dans un tiers des cas par les tensions politiques au sein des conseils municipaux. Les petites communes sont particulièrement touchées et l'une d'elles a peut-être trouvé la parade. Bonjour Sarah Mansourin.
Bonjour.
Vous êtes penchée sur le cas de Théier en Loire-Atlantique qui joue la carte du binôme.
Oui, et en mairie de Théier, 1800 habitants, on trouve le bureau des maires. 2 bureaux, 2 sièges, 2 ordinateurs, face à face. Sur le papier, Arnaud Pajot est le seul maire, mais il partage tout avec Jérôme Skelar, officiellement second adjoint.
Oui, les gens, moi, les gens m'appellent monsieur le maire dans la commune.
Une décision prise quand ils étaient conseillers municipaux et maintenant qu'ils se partagent la tâche, eh bien, aucun des deux n'est étonné du nombre de démissions.
Évidemment que ça ne nous étonne pas. Les dossiers sont de plus en plus complexes. Les normes sont extrêmement importantes. Nous, on n'a pas 10 000 services. On se rend compte aussi qu'il y a une pression de plus en plus importante. C'est compréhensible aujourd'hui que les élus soient en difficulté.
D'être à deux, ça permet, parce qu'on a une vie privée, une vie professionnelle. Quand on arrive en mairie, si on a le coup de mou, il y a l'autre qui est là pour remonter le truc. Donc ça permet,
ça
et les 90% des fois, les gens y viennent, c'est pas pour nous dire bravo, hein. On se rend pas compte de la tâche en fait.
Alors ils se voient comme deux paratonnerres, on s'adresse à l'un comme à l'autre, c'est bien utile en cas de situation difficile comme annoncer des décès par exemple, mais il faut pour ça une communication extrêmement rodée.
Vous voyez, depuis ce matin, on a dû savoir 5 fois au téléphone, quoi.
T'appeler 5 fois, ouais, ce matin.
La recette fonctionne si bien que les deux maires devraient se représenter pour un second mandat. Et ils pourraient même faire des émules, puisque 4 communes de Loire-Atlantique les ont déjà contactées.
Merci Sarah Mansoura. On a envie de dire l'union fait la force.
Voilà.
Et ça tombe bien, parce que ça marche aussi à Fort-Boyard. Vous vous retrouvez, Jérôme Cadet, on vous retrouve pour cette édition spéciale du 13-14.
Mais l'union fait la force, ça vaut pour le jeu, et ça vaut aussi pour le chantier titanesque qui s'annonce ici, c'est l'expression vraiment idoine. On va en parler ensemble jusqu'à 14h. À tout de suite.
Pourquoi Banque Populaire est la première banque des entreprises? Développer mon entreprise et maîtriser son impact sur la société et l'environnement, c'est un vrai défi. Alors Paul, mon conseiller Banque Populaire, m'a parlé du prêt à impact. Si mon entreprise atteint ses objectifs de RSE, elle peut bénéficier d'un remboursement d'intérêt.
Soutenir nos entreprises clientes dans leur transition durable, c'est ça être la première banque des entreprises. Banque Populaire, la réussite est en vous. Sous réserve d'acceptation par votre Banque Populaire. Étude Kantar PME PMI 2023, 14 banques populaires, première banque des PME.
Bon ? C'est ça, il est bon ton jambon.
Jambon de Bayonne.
Ah bah oui.
Le jambon de Bayonne, bon pour le goût, bon par engagement, bon tout simplement.
Pour votre santé, bougez plus.
France Inter, partenaire du Festival des Sept Collines. Pour ses 31 ans, le Festival des Sept Collines voit les choses en grand. Le Cirque Aïtal revient avec un campement insolite pour un spectacle à ciel ouvert au parc François Mitterrand. Le groupe acrobatique de Tanger et ses impressionnantes pyramides humaines, Imaka, le nouveau spectacle de Mathurin Bolz et une soirée-concert avec Kéralt Laoz et le Bénin International Musical. Le Festival des Sept Collines, du 22 juin au 7 juillet à Saint-Étienne, un événement France Inter.
La météo avec TGV Inouï. Trouvez votre coin de ciel bleu dans une de nos 200 destinations en France et vers l'Europe.
Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
La chaleur s'amplifie encore aujourd'hui.
Oui, on va très vite passer sur le ciel, puisqu'il y a à part quelques développements nuageux sur les Alpes, entre la Haute-Maurienne et le Mercantour, qui pourront aller jusqu'à l'averse dispersée, voire à l'orage isolé, il ne se passe rien. Et c'est un soleil brûlant qui s'impose partout. Il fait d'ailleurs de plus en plus chaud. C'est aujourd'hui que devrait commencer l'épisode de vague de chaleur, 50e vague de chaleur sur le pays depuis 1947. Dès cet après-midi, les maximales sont 7 à 10 degrés au-dessus des normales de saison, parfois plus. Autour de la Méditerranée, l'écart est plutôt de l'ordre de 4 à 8 degrés. Pour cet après-midi, prévoyez 30 à 35 degrés en général, mais cette chaleur se propage jusqu'aux plages et aux îles de l'Ouest. Il fera d'ailleurs jusqu'à 31 degrés sur l'île d'Aix, alors qu'on attend des pointes à 36 voire 37 degrés entre la Nouvelle-Aquitaine et l'Ouest de la Provence. Et puis ce n'est qu'un début, puisqu'il fera de plus en plus chaud jusqu'à samedi, pic probable de cette vague de chaleur au niveau national.
Merci Sébastien Léas. Météo France.
France Inter. Le 13-14. Jérôme Cadet.
Un 13-14 exceptionnel en direct du Fort Boyard. Aujourd'hui sur France Inter jusqu'à 14h, nous avons choisi d'installer nos micros ici et c'est d'ailleurs la première fois qu'une émission de radio est réalisée en direct du Fort pour vous parler de l'impact de l'érosion sur nos côtes, la montée des eaux qui s'accélère. Plusieurs scientifiques nous le disent depuis des années et encore aujourd'hui, vous l'avez entendu dans les informations il y a quelques minutes. Ce fort est aujourd'hui menacé de disparition. Il est extrêmement important pour de nombreux Français. C'est un monument de notre patrimoine, mais c'est aussi un monument qui sert de décor à un jeu télévisé. J'étais tout à l'heure sur les marches qui permettent d'accéder à ce fort. Je me trouve maintenant au premier étage sur la passerelle intérieure. On a le métro de Fort Boyard juste en dessous de nous, le célèbre plongeoir d'où les candidats s'élancent pour le saut à l'élastique et puis les cellules qui sont transformées en éléments de jeu, que ce soit le jeu d'arcade ou la supérette ou encore le lavomatique. Voilà, vous connaissez tout cela très bien. Si vous êtes des fidèles de ce jeu, on va en parler, mais on va surtout parler de cette opération de sauvetage sauvegarde lancée par le conseil départemental de Charente-Maritime, dont vous êtes la présidente. Bonjour Sylvie Marcilly.
Bonjour.
Merci de nous accueillir ici. Vous étiez venue il y a un an dans ce 13-14 en studio avec nous pour nous annoncer le lancement de ces travaux. Nous y sommes, ils vont débuter dans quelques jours.
Dans quelques jours, au mois de juillet, donc il y aura l'installation de ce vaste chantier qui va finalement se dérouler pendant 3 années. Il faut évidemment, vous l'aurez compris, profiter de fenêtres météo et de marées favorables pour pouvoir faire les travaux ici.
On va rentrer dans le détail des ouvrages que vous allez devoir réaliser. 44 millions d'euros, c'est le budget que vous allez consacrer à cette opération. C'est considérable. Pourquoi faire ce choix ?
Alors, soit on laisse tomber le Fort Boyard qui menace de s'écrouler en mer, soit, eh bien, on décide de préserver ce joyau historique, cette prouesse architecturale militaire qui finalement a traversé les siècles pour aujourd'hui, eh bien, faire l'actualité finalement à la télévision, mais aussi l'actualité touristique de ce bel emblème pour la Charente-Maritime.
44 millions d'euros, avec cet argent, on peut réhabiliter des collèges, on peut isoler des bâtiments publics, on pourrait aussi adapter notre territoire au réchauffement climatique.
Certainement, et là, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est vrai que le fort est bien subi les assauts incessants de la mer qui viennent le miner dans ses fondations mêmes. Mais ce que je voudrais aussi vous dire, c'est qu'en fait, on a déjà réuni la moitié des sommes nécessaires.
Vous avez 20 millions d'euros ?
Oui, on a mis de côté 14 millions d'euros. Ça, c'est, on va dire, le fruit d'une gestion plutôt saine du département, tout en continuant à faire des investissements sur les routes, sur les collèges et préserver le patrimoine du département. Mais c'est un choix politique qui a été fait de se dire, eh bien, nous ne laisserons pas tomber le Fort Boyard.
Alors, nous sommes sur la passerelle intérieure. Je voudrais qu'on avance un tout petit peu. À notre droite, il y a une porte qui est extrêmement importante qui donne côté sud. Sylvie Marcilly, c'est par là que le public rentrera dans 3 ans. Parce que l'idée, c'est aussi de l'ouvrir au public.
Oui, en 2028, nous l'ouvrirons au public. Et en fait, cette porte que nous voyons là, eh bien, c'était la porte d'entrée à l'origine du fort. En fait,
1866, c'est la fin de la construction du fort.
Oui, 1866, mais je rappelle en fait que finalement la construction de ce fort a été imaginée par Louis XIV et Colbert dira, sire, il eût été plus facile d'aller chercher la lune avec les dents que de construire pareil ouvrage en pareil lieu. Donc vous voyez, cette prouesse était réalisée et effectivement donc nous pourrons entrer par ce côté de la vigie du fort.
L'idée, c'est de l'ouvrir au public, de continuer aussi de réaliser les émissions de télé. On va avancer sur cette passerelle. On se retrouve là au-dessus de la cour du Trésor, la salle du Trésor. C'est là que les candidats prennent place sur les lettres. Lorsqu'ils ont deviné, lorsqu'ils ont réussi à résoudre l'énigme, on est au-dessus de la grille qui s'ouvre et qui laisse passer les candidats qui vont chercher les boyards, les fameux boyards. Puisqu'on est là, on peut parler d'argent. Sylvie Marcilly, est-ce que la société de production qui exploite le fort va participer, va contribuer financièrement ?
Oui, c'est un engagement de la part de la maison de production du fort, de contribuer évidemment, parce que c'est aussi l'emblème de la maison de production que de pouvoir tourner sur un lieu tellement insolite que ce fort. Oui, ils se sont engagés évidemment à nos côtés à hauteur de 150 000 euros, donc 50 000 euros évidemment chaque année jusqu'en 2028.
Combien vous rapporte la mise en location du fort chaque année?
Alors en fait, les périodes de tournage sont extrêmement courtes, donc c'est à peu près 6 semaines de tournage et une occupation de la maison de production pendant 3 mois. Et en fait, lorsque ils arrivent sur le fort au mois de mars, eh bien le fort a subi l'hiver et donc il faut nettoyer entièrement le fort pour le rendre eh bien pimpant, on va dire, pour le plaisir des caméras. Et en fait, il y a un énorme travail de nettoyage qui est fait chaque année par la production.
Parce que la nature reprend ses droits au fil de l'hiver et le fort se dégrade, il faut le réhabiliter. C'est aussi pour ça que vous lancez ce chantier. On est au cœur du fort dans ce 13-14. On n'entend rien, c'est extrêmement calme, mais il y a un balai autour du fort qui est incessant de jet ski, de bateaux, de touristes, de promeneurs qui viennent voir au plus près. Et ça traduit évidemment l'impact économique et l'attraction qu'exerce ce fort sur les habitants, qu'ils soient les habitants de Charente-Maritime ou d'ailleurs. Bon, Faustine Calmel.
Bonjour.
Vous avez sillonné la côte atlantique ces derniers jours. Vous nous expliquez, Faustine, que ce fort est aussi un atout économique.
Oui, si vous voulez vous faire une idée, effectivement.
effectivement de l'attrait qu'il exerce le fort, il faut d'abord vous rendre sur les quais, que ce soit à Boyarville, à Rochefort ou comme ici à La Rochelle.
À bord.
Plus de 150 000 croisiéristes grimpent chaque année sur les bateaux pour s'approcher à 200 mètres du fort, notamment ceux de la compagnie Interil.
Croisière Interil existe depuis 1988.
Damien Courcot, son directeur.
Et les émissions du Fort Boyard ont commencé en 1990. Donc c'est à peu près toute notre vie, le Fort Boyard. Toutes nos croisières sont commentées sur l'histoire, le passé, le présent de Fort Boyard, patrimoine historique et aujourd'hui sur les jeux télévisés.
Billets, restauration, souvenirs, cela rapporte en moyenne 2 millions d'euros par an. Autre manne, celle des équipes de tournage de l'émission.
Grand Hôtel des Bains, la réception, bonjour.
L'hôtel de Fourin en accueille une partie chaque année. Manon y est chef de réception.
Nous, c'est un moment qu'on attend aussi parce que c'est un temps fort pour l'hôtel de recevoir les acteurs de Fort Boyard. Ça représente quand même 15% du chiffre d'affaires sur le mois de leur venue.
Avec les autres hébergements, la restauration, les prestations annexes, cela représente 1 million d'euros supplémentaires, assure Stéphane Villain, maire de Châtelaillon et président de Charente Tourisme, qui estime que le chantier qui va débuter sera un nouvel atout.
Au contraire, les gens auront envie d'aller voir les travaux qui seront effectués sur le fort, ce fameux éperon à l'avant, et puis ce petit port qui va être recréé. Donc ça va plutôt être un effet booster qui va donner envie aux gens de voir le fort différemment.
Mais de plus loin, pour des raisons de sécurité, les bateaux ne pourront plus s'approcher autant du bâtiment.
Voilà, lorsque le fort sera ouvert au public avec un port qui était là à l'origine au 19e siècle et qui va être recréé, on va en reparler dans les prochaines minutes, notamment avec l'architecte qui va piloter ce chantier. Mais je voudrais rebondir sur ce qu'on vient d'entendre, Sylvie Marcilly. Moi, j'ai été frappé en arrivant hier à la gare de La Rochelle de voir du vin Perfura en vente. Il y a énormément de produits dérivés qui sont en vente ici. Est-ce que vous touchez, vous, de l'argent de département sur ces produits, argent qui pourrait servir, par exemple, à réhabiliter le fort?
Non, absolument pas aujourd'hui, mais dans l'avenir, nous allons créer aussi, eh bien, avec la nouvelle silhouette du fort qui sera rénovée, des produits dérivés. Et ça, c'est vrai qu'il faut profiter, eh bien, de cet afflux de touristes amoureux du fort et amoureux de cette nouvelle silhouette du fort qui sera finalement un retour vers le passé. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on voit cet ovale parfait posé au milieu de l'océan, mais demain, il va retrouver en fait sa configuration du passé.
Ça va vous permettre de générer de nouvelles ressources, ça c'est l'idée, avec ce qu'on appelle des goodies, des produits dérivés?
Bien entendu, donc là on a déjà créé une régie et ça va être un nouvel élan aussi pour, encore une fois, cette nouvelle silhouette, ce Fort Boyard ressuscité.
Alors, voilà les clés budgétaires du problème, si je puis dire, toujours au-dessus de la salle du trésor qui est juste en dessous de nous. Venons-en maintenant aux contraintes techniques, elles sont énormes. On est en pleine mer, entre l'île d'Oléron et l'île d'Aix. Il va donc falloir acheminer ici les ouvriers, le matériel. Et on a eu une petite idée ce matin de ce que ça représente. En arrivant ici sur ce fort, en Zodiac, la traversée entre Foura sur la côte et le fort dure un petit quart d'heure, avant d'être hissé sur une plateforme qui jouxte le fort dans un panier. On embarque.
Bonjour.
Bonjour, Pablo.
Le fort est là-bas, on met combien de temps pour l'atteindre ?
10-15 minutes. Donc pareil, quand il va vous redéposer, je pense qu'il vous fera un briefing. Vous mettrez le matériel à l'intérieur, vous montez sur le panier, vous pouvez vous attacher tout de suite. Par contre là, il va lever le panier, sortir le panier de la plateforme offshore, il va descendre le panier à 2 mètres, à 2 mètres vous déclampez, et quand il va poser, moi je vais vous aider à descendre.
Qu'est-ce qu'on voit derrière le fort là ?
C'est la plage, là. L'île d'Oléron, là, c'est Boyarville.
Ça, c'est l'île d'Oléron.
Ouais.
Et l'île d'Aix ?
L'île d'Aix, elle est là.
On est entre l'île d'Aix et l'île d'Oléron.
Quand on va se rapprocher du fort, qui va descendre le panier, on aura vraiment longé à se mettre sur le côté, parce que le panier, il descend là. Et si on arrive trop fort dessus, ça fait mal aux dents. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que vous allez vous décaler. Il y en a un qui reste avec moi. Le reste se décale sur les côtés.
Je vais monter avec lui, ce que je vais enregistrer.
Ok, vas-y, je te laisse passer de mon côté.
Et donc on se...
Et tu t'accroches.
On s'attache quand on est à 2 mètres.
À 2 mètres, il va lever, stocker le panier.
C'est bon, t'es monté, Benjamin ?
Ouais. Attention.
T'y es ?
Non, les pieds
sur la couronne. Sur la couronne, pas sur le fil. Okay. Okay.
C'est bon ?
Ouais, c'est bon.
C'est bon, tout le monde est attaché ?
Non, pas encore. C'est bon.
Allez, ça monte.
Énorme.
Donc là, on est 4 mètres au-dessus de l'eau et on va accéder à la plateforme.
Énorme. Incroyable.
Et on vient de quitter le Zodiac qui nous a laissé juste en bas. Oula, on est haut là maintenant. Là, on est très très haut là. Et on redescend et on va arriver sur la plateforme au-dessus de l'eau. Et voilà. On peut se détacher, je pense.
Bonjour.
Et tout le monde est arrivé à bon port sur cette plateforme à 7-8 mètres au-dessus de l'eau. Bonjour Mathieu Barbier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes ingénieur au conseil départemental de Charente-Maritime en charge de la gestion et de la maîtrise d'ouvrage. Il faut d'abord rappeler pourquoi ce fort en pleine mer. C'est un ouvrage militaire qui en fait n'a jamais servi.
Ah, c'est un ouvrage effectivement qui a été construit pour défendre l'entrée de l'estuaire de la Charente et par sa difficulté de construction et la durée de construction, quand il a été fini, les portées de canon avaient évolué et en fait les distances de portée permettaient une défense à partir des îles et des ouvrages déjà existants.
Donc il a été rattrapé finalement par le progrès technique et ne servait plus en tout cas pour cela lorsqu'il a été inauguré 1866. Après il a fait office de prison un petit peu.
Voilà, il a fait office de prison, mais effectivement le temps a rattrapé par rapport au canon, mais par contre c'est un tel ouvrage que c'est un exploit de l'avoir construit.
Un ouvrage qui était en ruine dans les années 60, 70, 80, avant que le jeu ne lui donne une seconde jeunesse et qu'il soit acquis, acheté par le conseil départemental.
Alors effectivement, c'est un ouvrage qui était à l'abandon en tout cas, qui était très dégradé à l'intérieur. Et une fois que le département a racheté l'ouvrage en 88, il a pu le rénover.
La présidente du département rappelait, je ne sais pas si c'est Colbert ou Vauban, mais cette citation, il serait plus facile de saisir la lune avec les dents que de tenter en cet endroit pareille besogne au sujet de la construction. Est-ce que vous diriez la même chose pour l'édification d'ouvrages dans les mois qui viennent pour défendre ce fort? Est-ce que là encore, il serait plus facile, pour reprendre l'expression, de saisir la lune avec les dents?
En tout cas, ça reste toujours un pari fou, malgré les évolutions technologiques. On reste quand même sur un site dit de mer ouverte, c'est-à-dire qu'on est on est soumis aux houles du large et on rencontre des difficultés très importantes, que ce soit en termes de moyens techniques, mais également en termes de dimensionnement d'ouvrage.
Quels sont les problèmes qui se posent pour restaurer un ouvrage en pleine mer, qui ne se posent pas pour restaurer, par exemple, un château fort qui serait à l'intérieur des terres?
La plus grosse difficulté, c'est les conditions de mer. À cet endroit, en fait, on a toujours de la houle et même quand il fait très beau, on a l'impression qu'il fait très beau. À Fort Boyard, il y a de la houle parce que ça arrive du large. Et pour travailler avec des équipements nautiques pour ce type d'intervention, on a besoin d'une mer calme qu'on a très rarement.
Donc, quand la mer ne sera pas calme, le chantier ne pourra pas avoir lieu. Ça veut dire un nombre de jours de chantier plutôt réduit dans l'année?
En fait, tout le calcul d'intervention a été fait de cette manière. On a retenu des périodes les plus propices aux bonnes conditions. Et dans ces périodes-là, on a identifié quasiment la moitié du temps où on ne pourra pas travailler.
L'autre contrainte, c'est que les tournages doivent se poursuivre. C'est-à-dire qu'il faut à la fois permettre l'exploitation du fort pour des tournages, mais en même temps faire les travaux de protection autour.
Effectivement, tout le calendrier et les plannings ont intégré ces périodes de tournage. Donc vraiment les périodes où il y a le tournage, pas les périodes de préparation.
Qui ont rituel quand on parle de chantier, 3 ans, il faut tenir le délai. Ça a été tenu pour Notre-Dame, c'était un autre chantier. Là, il y a quand même peut-être des interrogations autour de ce calendrier ou pas?
Alors aujourd'hui, on suit le calendrier et on a quand même un point fort, c'est que les ouvrages étant préfabriqués à terre, on sait qu'on maîtrise ce temps de construction. La seule chose qu'on maîtrisera pas, c'est vraiment la fenêtre météo pour venir les mettre en place.
Voilà, si les conditions météo sont trop mauvaises et s'il y a un enchaînement de tempêtes dans les années qui viennent, il sera peut-être difficile de tenir ce calendrier. En tous les cas, et vous nous l'avez précisé Mathieu Barbier, les tournages ils vont se poursuivre et ça demande une organisation évidemment très importante. Ici au Fort Boyard, on est toujours sur ce premier étage. Les candidats, si vous suivez le jeu, déambulent partout dans cet espace, mais vous ne connaissez pas tout, vous qui peut-être suivez ce programme. Les cellules, les épreuves sont spectaculaires, mais il y a aussi les coulisses. Et on va vous les faire découvrir maintenant avec Pascal Baron. Pascal était avec nous tout à l'heure et il va nous emmener maintenant à l'intérieur de ce fort.
Donc ça, c'est une première pièce, c'est la pièce de restauration.
D'accord.
C'est le restaurant pour les équipes. Oui.
Combien de personnes peuvent manger ici?
Dans la journée, généralement, il y a 150 personnes.
150 personnes qui vont déjeuner ?
En plusieurs services.
D'où vient la nourriture ?
Bah, tous les jours, c'est amené par bateau.
Donc il y a 150 repas par jour qui sont amenés par bateau ?
Qui sont cuisinés ici.
Cuisinés ici ?
Oui.
Et où sont les cuisines ?
Les cuisines, elles sont au rez-de-chaussée. Donc là, on accède par un des escaliers du fort. Il y a deux escaliers, un au nord, un au sud. Et donc là, les escaliers sont en bois et d'origine. Et là, on voit bien les fissures. Là, on voit bien une belle fissure.
Des fissures comme ça, il y en a d'autres
à plusieurs endroits du fort. Plusieurs endroits, oui. Il y en a un peu partout.
Donc là, on est arrivé, nous, au premier étage. Là, on est au rez-de-chaussée.
On est
dans la cour. Comment vous appelez cet endroit ?
La cour avec tous les espaces techniques. Donc la cuisine, la salle de repos. Un peu plus loin, on a la salle des machines. Après, il y a tous les ateliers, menuisiers, chaudronniers, soudeurs, les électriciens pour le tournage.
Ça, c'est tout ce qu'on voit pas à la télé, en fait.
Oui. Toutes ces équipes techniques sont toutes installées au rez-de-chaussée.
Ça vous fait toujours une impression forte quand vous rentrez ici ?
Toujours. Le lieu est tellement magique. Il y a ce silence, il y a l'air de la mer, l'odeur. C'est très particulier quand on arrive au mois de mars, après l'hiver. Il y a toutes les mouettes qui sont là, les goélands. Il y a cette odeur de guano un peu partout. Et c'est vrai que c'est très, très spécial. C'est un peu comme si on était en bateau. Donc on a le sentiment d'être en plein milieu de la mer. Mais par contre, l'avantage, c'est que ça bouge pas du tout, c'est stable. Donc, c'est agréable.
Voilà, la magie du fort, toujours active avec ses escaliers qui sont toujours les mêmes que depuis le 19e siècle, mais avec un ouvrage qui se dégrade petit à petit. Nous étions tout à l'heure sur la passerelle intérieure de ce Fort Boyard, premier étage. Nous avons, et vous l'entendez peut-être, je suis un peu essoufflé, gravi les marches qui nous permettent d'accéder à la terrasse, le dernier étage. On est au pied de la vigie et donc on a une vue à 360 degrés autour de nous, sur le littoral de Charente-Maritime, avec en point de mire La Rochelle, le pont vers l'île de Ré aussi. Vue magnifique, Delphine Gramaglia, merci d'être avec nous. Je vous représente, vous étiez avec nous en ouverture du 13-14 tout à l'heure, vous êtes architecte du patrimoine. C'est vous qui êtes en charge de ce chantier de sauvegarde. On a grimpé l'escalier, il y a deux escaliers en fait ici au Fort Boyard, et en montant dans l'escalier il y a quelques minutes quand on est passé, vous m'avez montré une fissure, une grande fissure qui brise en fait la voûte.
Voilà, effectivement, les fissures que l'on voit de l'extérieur se propagent littéralement à travers la largeur des maçonneries qui peuvent atteindre jusqu'à 2,50 m d'épaisseur. Donc on comprend quel est l'effet des vagues et le danger que provoque celles-ci quand elles viennent s'abattre sur le fort, et l'intérêt de venir restituer les ouvrages de protection pour assurer la pérennité du monument historique.
Vous pouvez, vous, avec vos outils, anticiper l'impact de la hausse du niveau des mers dans les années qui viennent sur un édifice comme celui-là ? On peut le modéliser, par exemple, en 3D, en prenant en compte les données que nous donnent les scientifiques ?
Oui, tout à fait. C'est ce qui a été réalisé au mois de février cette année dans l'université de Gand en Belgique, où on a simulé des tempêtes centennales, quinquennales, pour vraiment voir si les ouvrages que l'on proposait de restituer était parfaitement adapté à cette montée des eaux et à la violence des vagues. Donc les résultats sont concluants, donc on est assez contents.
Sur une échelle d'un siècle ?
Oui, un tout siècle. À fait. Oui.
Donc jusqu'en 2125, normalement ça peut tenir, en tout cas si vous arrivez à mener ce chantier à bien.
Oui, et puis on a fait des essais de force, de houle, de pression assez particulière pour s'assurer que l'ouvrage qu'on allait remettre en place était parfaitement adapté et qu'il allait permettre la sauvegarde de l'édifice.
On est attaqué par les insectes ici au dernier étage du fort. On a croisé aussi, il y a des cafards par terre, ce sont les mêmes cafards que vous voyez dans l'émission de télévision. On me dit que parfois des serpents s'échappent aussi, mais on n'en a pas croisé jusque-là. Mathieu Barbier, là on a vraiment une vue sur tout le fort. Qu'est-ce qui va être fait ? Je voudrais qu'on commence par le sud, juste en dessous ici. Il y avait à l'époque ce qu'on appelle un havre, c'est un petit port dans lequel les bateaux pouvaient arriver. Il a été détruit petit à petit.
Alors effectivement, les ouvrages de protection ont été complètement détruits petit à petit. Hein. Le havre étant l'ouvrage qui a commencé à tomber en ruine en premier.
Donc côté sud.
Côté sud, voilà, tout à fait. Et l'éperon, donc qui est l'ouvrage en protection côté nord, nord-ouest, lui, il a tenu un petit peu plus de temps puisqu'il était beaucoup plus massif. Mais aujourd'hui, on a quasiment plus de traces de cet ouvrage aussi.
Donc on a un fort sans défense.
Aujourd'hui, il reste une dernière rempart, mais effectivement, les remparts, je dirais, d'origine qui cassaient la houle ont complètement disparu. Et il nous reste alors ce qu'on appelle la risberme en termes techniques, c'est-à-dire un talus de protection.
C'est une sorte de trottoir qui fait le tour du fort, qui est sous l'eau.
Exactement, et qui protège vraiment les fondations du fort.
Donc la première chose, c'est déjà de remettre ces protections nord et sud.
Voilà, la première chose, c'est de protéger le fort contre l'énergie de la houle. Et donc, on va remettre à l'identique en termes de design ces ouvrages. Donc, en commençant par le sud, hein, par le havre d'accostage qui devrait être mis en place à l'été 2026. Et ensuite, on viendra mettre l'éperon dans la face nord-ouest à l'été 2027.
Delphine Gramaglia, le béton a été choisi pour édifier ces ouvrages. Pour quelle raison ?
Bah pour des questions de solidité et de pérennité, là où les ouvrages étaient en pierre et s'abîmaient très rapidement, il était nécessaire de trouver d'adapter des moyens techniques modernes pour pouvoir assurer une pérennité et très peu d'entretien sur ces ouvrages pour le département.
Ces ouvrages, où est-ce qu'ils sont faits ? On va pas les faire ici en pleine mer, ça va être des ouvrages énormes. Où est-ce qu'ils sont faits et comment est-ce qu'on les amène ici au large ?
Alors ces ouvrages sont construits dans la forme de radou du port de Saint-Nazaire. On va les construire comme un bateau et ils seront remorqués et installés sur place par des bateaux également.
C'est plusieurs dizaines de mètres de long ?
Oui, on est jusqu'à 28 mètres de long par 40 mètres de large, donc ce sont de très beaux ouvrages.
Combien pèsent ces pièces extrêmement légères ? Vous n'avez pas d'idée, mais enfin ça doit être extrêmement lourd.
Jusqu'à 4000 tonnes.
4000 tonnes, nous dit Mathieu Barbier. Il faut pouvoir les remorquer. Ça aussi, c'est un défi particulier ?
Oui, en fait, il y a plusieurs volets à ces travaux de restitution. On n'imagine pas toute l'ingénierie qui est mise en œuvre derrière par le groupement, et cela va jusqu'à le calcul du remorquage depuis Saint-Nazaire jusqu'à La Rochelle, point d'attache, et ensuite, quand la fenêtre météo sera bonne, on viendra poser les ouvrages.
Le fort est attaqué de tous côtés, ou bien c'est surtout là, côté ouest, côté Oléron, on a Boyerville en face de nous. Est-ce que c'est plutôt côté ouest, est-ce que c'est plutôt côté nord, côté La Rochelle et Île-de-Ré ?
Alors on a des houles assez dominantes côté nord-ouest, donc qui tapent vraiment sur la façade nord de l'ouvrage, d'où la nécessité de mettre un éperon à l'avant, ce qu'avaient fait les anciens, on n'a rien inventé. Et puis ensuite, la propagation des houles se fait le long de la façade ouest et vient attaquer, avec des phénomènes de vortex, l'arrière du havre d'abordage. Et donc là, on a un affouillement des fondations.
Est-ce que vous avez été surprise, vous qui êtes architecte, en retravaillant finalement, vous avez retravaillé sans doute les plans d'origine, vous avez retrouvé les plans d'origine. Est-ce que vous avez été surprise par les techniques employées à l'époque et par la réflexion qui a été celle de vos prédécesseurs qui ont travaillé comme vous le faites aujourd'hui sur ce fort ?
Oui, je crois que l'étude des analyses des archives historiques nous a donné beaucoup d'humilité, puisque les anciens avaient fait preuve d'un pragmatisme et d'une ingénierie absolument phénoménale, et on a voulu essayer de restituer le plus fidèlement possible les deux ouvrages de protection en s'adaptant aux contraintes du fort et au fonctionnement du fort. Voilà, le havre d'abordage garde ses dimensions d'origine. L'éperon va être légèrement plus long pour s'adapter aux contraintes climatiques.
Ça veut dire qu'on peut s'inspirer de ce qui a été fait il y a 150 ans aujourd'hui quand on édifie des ouvrages de protection pour notre littoral, parce que c'est fait ici pour sauver le Fort Boyard, mais c'est fait partout sur notre littoral et sur d'autres compte tenu de la montée du niveau des océans.
Oui, tout à fait. Et ça a été, à notre sens, respecter le travail des anciens que de le restituer dans son intégrité architecturale d'origine.
Alors, c'est sans doute Sylvie Marcy, vous qui êtes la présidente du conseil départemental de Charente-Maritime, l'ouvrage le plus emblématique de ce que vous allez faire pour lutter contre le niveau des océans. Mais au fond, l'ensemble de votre littoral est concerné. Et l'ensemble des activités sont et seront concernées dans les années qui viennent. À Foura, ou à l'île d'Aix qui sont derrière moi, ou à l'île d'Oléron qui est juste en face.
Oui, en fait, en 2010, nous avons subi les assauts aussi de la tempête Xynthia. La Charente-Maritime, c'est 450 km de littoral avec des points stratégiques qui méritaient de faire l'objet de réalisations assez lourdes en termes de digues. On arrive finalement, là, à la fin du programme de construction des digues, évidemment, le Fort Boyard fait partie des dispositifs de lutte contre les événements climatiques dont vous parliez.
Vous avez dû reculer des activités. Il y a des activités touristiques, par exemple, qui ont dû être reculées ces dernières années. Ou est-ce que c'est en prévision ? Ou est-ce qu'il y a des habitations qui, petit à petit, seront condamnées sur votre littoral parce que mettre des enrochements, par exemple, coûtera trop cher et qu'on ne pourra pas préserver tous les lieux d'habitation sur nos côtes?
C'est tout l'objet, en fait, des études qui sont menées au niveau national sur la lutte contre l'érosion aussi des côtes. Nous avons protégé tout ce qui avait été défini par l'État en commission mixte inondation comme protégeable. Et peut-être qu'effectivement, ce qu'on voit un petit peu plus au sud en Gironde, des endroits où, malgré tout, on ne pourra pas lutter contre la mer. En tout cas, tout ce qui devait être protégé...
Il y a des endroits où on peut lutter, il faut choisir.
Voilà.
On peut protéger des endroits où il faut reculer.
C'est ce qui a été fait, en tout cas, en Charente-Maritime.
Mathieu Barbier, est-ce que vous êtes en contact avec vos collègues d'autres départements? Parce qu'au fond, tout le monde, aujourd'hui, fait face aux mêmes défis, qu'on soit dans la Manche, qu'on soit, comme ici, dans l'Atlantique, ou qu'on soit en mer Méditerranée.
On a des échanges permanents, effectivement, avec nos homologues dans les autres départements, où on échange sur nos stratégies, on échange sur nos techniques, pour essayer d'avoir, une approche la plus pragmatique possible, puisqu'à un moment donné, face aux éléments, il faut aussi du pragmatisme et du retour d'expérience.
Delphine Gramaglia, est-ce qu'on a aujourd'hui l'expertise suffisante? Est-ce que ça devient une spécialité pour des architectes de travailler sur ces ouvrages-là, ces ouvrages qui vont devoir lutter contre l'érosion en mer? Est-ce que petit à petit, on est en train de diffuser des techniques et de créer des métiers qui vont être bien utiles demain?
Oui, je crois que malheureusement, nous sommes obligés de nous adapter aux contraintes climatiques qui sont en pleine évolution. Et effectivement, ça fait l'objet d'une attention toute particulière de notre part.
Alors, nous sommes au sommet du fort quasiment. On va monter dans la vigie dans quelques minutes. Mais on a quand même, et on voit tout autour de nous, ces bateaux qui s'approchent avec des touristes, des fans du jeu et du fort, parce qu'il y a toujours ces deux dimensions. Est-ce qu'on pourra toujours venir près du fort pendant les travaux, Sylvie Marcel?
Oui, avec un périmètre de sécurité un peu élargi, évidemment, pour permettre la sécurité déjà des croisiéristes qui feront le tour du site.
Et normalement, ils n'ont pas le droit de s'approcher à moins de 200 mètres.
À moins de 200
mètres. C'est pas tout à fait respecté.
Bon, oui, effectivement, en fait, les gens ont envie de voir le fort le plus près possible. Mais effectivement, pendant les travaux, en fait, il y aura un ancrage des éléments qui seront nécessaires à la construction des éperons, etc. Et donc, en fait, ces ancrages feront l'objet d'un périmètre de sécurité. Évidemment, on pourra toujours approcher le fort, mais dans un périmètre un petit peu plus large.
Alors, ces visiteurs qui s'approchent encore, on en voit deux en bas qui sont en train de pêcher là sur un zodiaque. Beaucoup sont attirés par leur amour du patrimoine, mais aussi par ce fameux jeu lancé il y a 35 ans et imaginé par Jacques Antoine, grand personnage de la télévision française, qui a aussi à son actif la création de jeux comme le Schmilblick ou Tourner Manège. Il a d'ailleurs sa photo ici dans une pièce du fort en bonne place. Chaque été, en moyenne, 2 millions de téléspectateurs sont fidèles à sa diffusion le samedi soir sur France 2. Faustine Calmel, on vous retrouve. Vous vous êtes entretenue ces derniers jours avec des fans absolus.
Oui, pour expliquer leur passion, il faut souvent remonter à la petite enfance. C'est le cas, par exemple, pour Kevin Ravaux, grand passionné du fort et de l'émission.
Et je me rappelle qu'à l'époque, je me prenais déjà pour Patrice Laffont en tournant les sabliers de ma mamie dans la cuisine.
Depuis, ce nordiste s'est créé une véritable collection chez lui.
Dans ma pièce, j'ai toutes les émissions depuis 1990. Des tasses, des boyards, des cartouches indices, une grosse tête de tigre à sacrifice.
Alors ça prend de la place, vous l'imaginez. Comme chez Pierre-Marie de Visme, le Breton vient régulièrement admirer le fort, ici sur la côte, mais là aussi recréé chez lui en Lego.
Donc on est avec pas loin de 15 000 pièces pour un fort boyard qui fait à peu près 1,50 m de long. On doit être deux en France à l'avoir fait en bloc Lego.
Car ce qui fascine ses fans, c'est tout autant l'univers de l'émission que l'ouvrage sur lequel nous sommes. Thomas Mérand, depuis l'Aveyron où il vit, connaît le bâtiment par cœur. Il l'a entièrement modélisé en trois dimensions.
Assez égoïstement, je suis parti du principe que si je m'en faisais un jumeau numérique, je pourrais le visiter.
Un travail qu'il mène depuis 2009 et le fort continue de le fasciner.
Un élément qui me plaît particulièrement, c'est la géométrie qui est hyper stricte. Il y avait une volonté à cette époque-là, je pense, d'en mettre aussi plein les yeux au travers une ingénierie et un savoir-faire français, quoi.
Alors cet été, il fera un don pour sauver l'ouvrage, comme Kevin Ravaux, le nordiste.
pour moi, le Fort Boyard, c'est beaucoup mieux que la Tour Eiffel de Paris. Hein. Même en rigolant, j'ai toujours dit que si la production a besoin de moi pour un coup de peinture, je le ferai.
Un bon moyen de mettre les pieds ici, avant une ouverture au public, car c'est bien sûr le rêve de tous ces fans.
Et on en croise beaucoup ici en Charente-Maritime, tout près du fort ces derniers jours. Merci Faustine Calmel. Nous avons quitté la terrasse, on a trouvé un peu d'ombre. Nous sommes dans la célèbre vigie dans laquelle prend place le père Fourat pour poser ses fameuses questions aux candidats, avec là encore une vue à 360 degrés ici sur ce Fort Boyard, mais aussi sur le littoral de Charente-Maritime autour de nous. Les fans qu'on vient d'entendre ont envie de participer peut-être à la rénovation de ce fort, peut-être de contribuer aussi. Sylvie Marcy, vous avez lancé une collecte. On peut participer ?
Oui, bien sûr, chacun peut y participer. Et nous avons pour partenaire la Fondation du patrimoine, et notamment Stéphane Bern, qui s'intéresse de près à la rénovation du Fort Boyard, ainsi que Franck Ferrand, tous deux grands amoureux de l'histoire de France. Oui, donc
ça marche bien ?
Oui, écoutez, pour l'instant, donc il y a une somme de 160 000 euros qui a été récoltée, alors que finalement, on n'a pas commencé il y a très longtemps, ouais. cette opération de mécénat, qui va se dérouler encore une fois sur plusieurs années. Et la Fondation du patrimoine, eh bien, elle est en charge d'aller chercher les grands mécènes, les grandes fondations.
Qui vont vous permettre de trouver les 20 millions d'euros qui vous manquent aujourd'hui, parce que vous nous disiez que le budget était à moitié bouclé. On est au sud du fort, dans la vigie. Si je me penche au-dessus de l'eau un tout petit peu, il y a des vitres, je peux pas trop m'avancer, mais le Havre, là où arriveront les visiteurs dans 3 ans, est juste en dessous de nous, à plusieurs dizaines de mètres. Ils devront payer, vous savez à peu près comment vous allez mettre tout cela en place, Sylvie Marcilly, l'entrée du fort pour le public ?
Alors le prix n'est pas encore fixé. Évidemment, il y aura aussi des prix famille pour les enfants, parce que c'est le rêve des enfants de pouvoir venir à bord de ce vaisseau de pierre. Et on est en train de réfléchir sur toute la scénographie. Qu'est-ce qu'on montre, l'histoire, avec un parcours dédié à la visite. Donc ça va être une véritable aventure pour chacun de pouvoir accéder au fort, encore une fois au milieu de l'océan du Pertuis d'Antioche. Évidemment, nul doute que les visiteurs seront extrêmement nombreux.
Ça, ce sera pour dans 3 ans. D'ici là, début juillet, diffusion des épisodes 2025 du jeu. Il y a une nouvelle épreuve cette année. Les candidats devront rentrer dans le fort en escaladant à main nue la façade pour accéder ici à la vigie et rejoindre le père Fourat. Parmi les personnages emblématiques du fort, il y a Passepartout, l'homme qui en détient les clés, incarné par André Boucher. Et c'est le seul à être présent depuis 1990.
Alors, quand on me croise dans la rue, souvent les gens me disent « Vous avez bercé mon enfance, et puis vous savez que vous êtes aussi une légende par rapport à Fort Boyard. » Alors, ce qu'on attendait de moi, c'était un petit gars qui galope, qui court très vite dans un fort. J'avais une vie en parallèle par rapport à Fort Boyard. Je travaillais à la RATP à Paris La Défense. J'étais au guichet et je vendais les titres de transport. Bah, souvent, la réaction des gens, c'était « Qu'est-ce que vous faites là ? C'est inimaginable et impensable de rencontrer Passepartout. Et puis souvent la réaction des parents, que ce soit un papa ou une maman, dommage que mon gamin n'est pas là pour faire 2-3 selfies, une photo avec vous. Alors aujourd'hui, il faut savoir que je suis retraité. J'ai une passion, c'est pour le chant, la scène. Par exemple, je reprends des titres de Johnny, bien sûr, genre toute la musique que j'aime. Allumer le feu. Et je donne des concerts, oui, partout en France. Combien de temps pour Fort Boyard pour moi ? Bah, tant qu'on me sollicite, je continuerai à le faire. J'ai pas envie d'arrêter. Maintenant, si un jour on me dit demain, tu nous rends les clés, je te comprendrai très bien aussi.
Voilà, mais pour l'instant, il garde les clés. Nous, on va devoir les rendre, et à regret, ces clés, car dans la fournaise du jour, la fraîcheur de Fort Boyard était très appréciable. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette émission aussi spéciale qu'exceptionnelle, puisque réalisée en direct de ce fort, ce qui n'avait jamais été fait. Je voudrais remercier Sylvie Marcilly, la présidente du conseil départemental de Charente-Maritime, propriétaire des lieux, de nous avoir accueillis, ainsi qu'à toutes ses équipes. Merci à l'équipe de France Inter, notre chargée de production, Sandrine Bréchaud, à la technique, Benjamin Thuot et Benjamin Troncin, la rédaction en chef, Cécilia Arbona, et notre chargée de programme, Claire-Sophie Collet. Bonjour Mathieu Vidard.
Jérôme Cadet, bonjour.
Je vous salue depuis le large. Quel est le programme ?
Eh bien aujourd'hui, dernier épisode de notre série sur le capitalisme.
À tout de suite.